Chapitre 1. Le paquebot blanc, immense et luxueux, glissait sur les eaux calmes du Tage sous le grand pont de fer, suivi par une nuée de mouettes, l'étrave pointée vers la tour de Belém. La vision arracha un soupir mélancolique à Tomáš Noronha. Il avait toujours rêvé d'embarquer sur un paquebot comme celui-là, sans avoir la moindre idée de l'endroit où il irait et de se laisser surprendre à chaque escale. Accosterait-il à Casablanca pour y retrouver Humphrey Bogart et Sam le pianiste? Mouillerait-il à Villefranche-sur-Mer face à la villa de Somerset Maugham? Ferait-il escale à Funchal, sous les balcons du Reid's Palace où Winston Churchill s'était réfugié après la guerre? La porte de la salle s'ouvrit. Le regard rêveur de Tomáš quitta la fenêtre et se posa sur l'homme en blouse blanche qui venait d'entrer, une enveloppe à la main. « Désolé de vous avoir fait attendre, professeur Noronha, » dit le médecin avec un air grave en s'asseyant derrière son bureau. « Les résultats des analyses ne sont pas très bons, j'en ai peur. » Tomáš eut l'impression de manquer d'air. La dernière chose dont il avait besoin était ce genre de problème. Qu'y a-t-il, docteur Godignou ? Demanda-t-il, la peur au ventre. Quels sont les résultats des analyses ? Le médecin alluma l'ordinateur et cliqua sur une succession d'icônes jusqu'à ce qu'apparaisse à l'écran une série d'images. Il agrandit l'une d'elles et tourna l'écran vers son interlocuteur. On voyait une partie de l'intérieur d'un corps humain. Il indiqua une tache en bas à gauche. Vous voyez ça ? Ce sont des adénocarcinomes. Carcinome ? Le médecin acquiesça. Cancer colorectal. On ne pouvait pas dire que c'était une surprise totale, mais ça n'atténuait en rien le choc de l'annonce. Tomáš gardait les yeux fixés sur la tache, comme s'il espérait que, sous l'intensité de son regard, elle finirait par disparaître. Combien de temps, docteur ?
Eh bien, cela a pu évoluer pendant des années sans être détecté, de sorte que...
De vie, docteur. Combien de temps de vie ? Le docteur Godignou le regarda avec surprise, presque choqué par la question.
« Oh là, comme vous y allez !» s'exclama-t-il. « Du calme. De nos jours, un cancer n'est pas nécessairement une condamnation à mort. Il y a des traitements, il y a... »
« Combien de temps, docteur ?» Le médecin plissa les yeux, réévaluant l'homme qui se tenait devant lui. Il ne s'attendait pas à un tel pessimisme chez quelqu'un d'érudit comme lui.
« Le Centre Champalimo pour l'inconnu est l'une des meilleures institutions mondiales de recherche en biomédecine, » se rengorgea-t-il. « Je sais de quoi je parle quand je vous dis qu'un cancer n'est pas forcément synonyme de condamnation à mort. »
Je connais la réputation du centre Champalimau et c'est exactement pour ça que je suis ici, dit Tomáš. Mais je sais aussi ce qu'est un cancer colorectal et la dernière chose que je veux, ce sont de faux espoirs. Êtes-vous en mesure de garantir une guérison pour cette maladie?
Le docteur Godignou sortit une feuille de l'enveloppe qu'il tenait à la main et la consulta. Je crois comprendre que la personne dont proviennent ces échantillons est votre mère.
« C'est exact, docteur. Comme vous pouvez le comprendre, j'ai besoin de savoir combien de temps il lui reste à vivre. » Posant la feuille sur son bureau, le médecin s'adossa à son fauteuil et dévisagea le visiteur.
« Que savez-vous des larves de poisson zèbre ?»
La singularité de la question déconcerta Tomáš. Où le médecin voulait-il en venir ?
« Eh bien, pour être honnête, je ne sais même pas ce que sont les poissons zèbres. » L'un des problèmes fondamentaux de la médecine traditionnelle est qu'elle présente des solutions standards pour chaque maladie. Vous avez mal à la tête? Avalez une aspirine. Un taux de cholestérol élevé? Prenez un Crestor. Un cancer colorectal? On vous prescrit une chimiothérapie à l'irinotécan. Le problème, c'est que, bien qu'elles puissent appartenir à la même famille, les maladies ne sont pas toutes identiques. Et que les gens n'ont pas exactement la même constitution. Il existe d'innombrables différences génétiques entre chacun de nous. Les cellules cancéreuses elles-mêmes subissent des mutations. C'est pourquoi les médicaments sont extrêmement efficaces dans certains cas et absolument pas dans d'autres, voire nuisibles parfois. Par exemple, le clopidogrel est administré aux patients qui ont eu une crise cardiaque afin d'empêcher la formation de caillots. Le médicament fonctionne très bien. Cependant, un quart des personnes ont une variante génétique qui, lorsqu'on leur administre le clopidogrel, multiplie par deux la probabilité qu'elles subissent une nouvelle attaque ou qu'elles meurent dans l'année qui suit. En d'autres termes, le clopidogrel est bénéfique pour les trois quarts des patients et néfaste pour le quart restant. Et un tel cas de figure n'est pas une exception, c'est la règle. Prenez le Covid-19. Quelques personnes ont été contaminées par le nouveau coronavirus alors même qu'elles ne présentaient aucun symptôme ou elles avaient juste un simple rhume. En revanche, d'autres ont été infectées par le même virus et sont mortes en quelques jours parce qu'elles ne pouvaient pas respirer. Chaque personne réagit de façon différente. Les effets de chaque médicament diffèrent selon les individus. Le problème concerne la médecine dans son ensemble et illustre les limites et surtout l'échec de notre modèle fondé sur des solutions standards. Vous voulez dire qu'on va devoir jouer à la roulette russe avec ma mère? Vous allez lui prescrire des traitements successifs pour déterminer celui auquel elle réagit le mieux? Plusieurs molécules peuvent être utilisées pour la soigner, répondit le docteur Gordignot. L'irinotécan, l'oxaliplatine, la trifluridine, le tipiracil, que sais-je encore, les options ne manquent pas. La question est de savoir laquelle sera la plus bénéfique et la plus efficace pour votre mère, compte tenu de son patrimoine génétique. Un type de chimiothérapie qui fonctionne très bien chez certaines personnes peut être extrêmement préjudiciable à d'autres, pour les raisons que je vous ai expliquées. Jusqu'à présent, c'était effectivement la roulette russe, comme vous dites. Mais plus maintenant. C'est ici qu'interviennent les larves de poisson zèbre. Nous allons prélever des cellules cancéreuses de votre mère et les injecter dans ces larves. Dès que le cancer apparaîtra chez elle, nous testerons les différentes chimiothérapies. Sur certaines larves, nous appliquerons l'irinotécan, sur d'autres l'oxaliplatine et ainsi de suite. Puis, nous comparerons les résultats. Si l'on observe une rémission sur les larves traitées à la trifluridine, par exemple, on pourra en conclure que c'est la bonne chimiothérapie pour votre mère. Vous allez utiliser des larves comme cobayes? Exactement. Sur des cobayes, ce processus est coûteux et prend des mois, ce qui signifie qu'on découvrirait trop tard le bon traitement pour votre mère, tandis qu'avec ces larves, le processus n'est pas cher et ne prend que quelques jours. Au lieu d'injecter à votre mère des médicaments inefficaces, voire nuisibles, nous appliquerons d'emblée le plus efficace. C'est la fin de la roulette russe dans le traitement du cancer. Thomas plissa les yeux, étonné. Mais c'est extraordinaire. Le médecin prit à nouveau la feuille dans l'enveloppe qu'il avait apportée et la consulta. En fait, nous sommes même allés un peu plus loin, dit-il. J'ai envoyé des cellules cancéreuses de votre mère à iPredict, un projet d'une université américaine qui utilise des algorithmes spéciaux pour analyser des milliers de variantes génétiques, des centaines de thérapies anticancéreuses et des millions de combinaisons de substances, et ce, afin de mettre au point un traitement spécifique pour votre mère et le cancer dont elle souffre. D'un seul coup de feu, nous atteindrons la cible en plein dans le mille. C'est déjà possible?
Ça commence à l'être, confirma le docteur Gordignot. Toutes les 40 secondes en moyenne, un nouvel essai clinique est publié. Aucun médecin au monde, aussi bon soit-il, n'est en mesure de connaître en détail les nouveaux traitements qui apparaissent tous les jours. Il faudrait un surhomme pour ça. Or, un tel surhomme existe déjà. Ça s'appelle un ordinateur. Le Watson, d'IBM, assimile toutes les nouvelles informations et analyse des millions et des millions de pages en quelques secondes.